une création.
Blast. Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi
à Royères-de-Vassivière?
Le 15 août 2025, une agression raciste s'est, semble-t-il, transformée en chasse à l'homme noir. Cela s'est passé ici, à Royères-de-Vassivière, un village de quelques 600 habitants au cœur de la Creuse. Une nuit qui restera marquée dans la mémoire de ce village où le RN est arrivé en tête lors des dernières élections législatives.
Épisode 19. La nuit du 15 août 2025. Une chasse à l'homme noir. Une enquête sonore au cœur d'un village fracturé.
C'était lors visiblement de la fête du 15 août. C'est à Royères-de-Vassivière, en fin de soirée. Il y a eu une altercation entre deux groupes, dont l'un, parmi ceux qui étaient là, un jeune noir, d'où ensuite la chasse aux nègres qui est dénoncée.
Oui, alors ça serait produit vers 1h30 du matin. Un élu municipal et un membre du comité d'organisation, puisqu'il y avait cette fête, s'en serait pris à la seule personne noire de la bande, proférant des injures à caractère raciste. Et ils n'ont pas seulement tenu des propos racistes, ils se sont mis à pourchasser les victimes, dont cette personne dans les rues de la ville, en essayant de les attraper. Les expressions de chasse aux nègres et on va se le faire auraient alors été prononcées, selon ceux qui ont assisté à la scène. Et c'est finalement l'intervention de la gendarmerie qui a mis fin aux violences. Forcément, dans ce village de 500 habitants, c'est le choc.
Maître Colline Bouillon, tout d'abord, comment cette affaire vous est parvenue?
Alors moi, je suis contactée après que les victimes aient pris la décision de déposer plainte. Et c'est comme ça que j'arrive à Royères-de-Vassivière. Quand on me contacte, on m'informe qu'il s'agit de violences à caractère raciste. Mais quand j'entends le récit qui est fait par les victimes, J'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. C'est-à-dire que je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait, dans un village français, lors d'une fête du 15 août, avoir lieu à de telles violences émanant, qui plus est, par de conseillers municipaux.
Maxime a une vingtaine d'années. Il est la principale victime. Mais Maxime, c'est un nom d'emprunt, car il a souhaité rester anonyme. Il vit à Royères depuis plusieurs années et travaille ici. En exclusivité pour le média, il nous raconte cette fameuse nuit au cours de laquelle il a été pourchassé.
Arrivé un peu plus tard, le 15 août, c'est une soirée qui est organisée par le comité d'animation de Royères-de-Vassivière. Donc c'est chaque année, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il devait être aux alentours de 2h, 2h30. Et nous, on est restés parce qu'il y avait une bonne ambiance encore aux tables. Et en fait, moi, de mon point de vue, ça s'est passé d'une fraction de seconde. C'est que les gens du comité ont débarqué, l'élu municipal cité et le président de la CCA. Ils ont débarqué et puis là, directement, c'est parti en live, quoi. Très rapidement, ils ont commencé à me dire « Toi, allez, dégage, toi, tu dégages. » Et donc, le président de la CCA qui a commencé à me dire « On va te buter, sale noir. » Donc à ce moment-là, il y a eu un gros, gros remue. Et les potes avec qui j'étais m'ont dit là, il faut fuir, il faut bouger.
Et arrivé dans la rue de la médiathèque, on pensait les avoir semés. Puis un gros pick-up est arrivé, s'est garé. Et on avait après, justement, en lui disant « T'es où, sale noir, on va te tuer, espèce sale nègre. Ici, c'est la chasse aux nègres, t'as rien à faire ici, t'es chez nous. » Lui a réussi à partir et moi, non. Du coup, je suis resté. J'étais face à peut-être 15 personnes. Il y a une personne qui est arrivée qui m'a mis une patate. Je suis tombé au sol. Puis, je me suis mangé des coups de pied dans les côtes, dans le dos, les cervicales, dans la tête, partout. Puis, à un moment, ils ont lâché prise avec moi et ils se sont mis directement à reprendre leur pick-up en disant on retourne à la chasse aux nègres et ils communiquaient par talkie-walkie. Donc, dans notre tête, on se dit s'ils utilisent des talkie-walkie qu'ils utilisent pour la chasse, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas leur propre fusil à eux?
Les gendarmes auraient mis presque une heure à intervenir d'une part et n'auraient pas fait état de particulières suites après avoir entendu les discours. La victime principale a été raccompagnée et sinon, c'est le silence, c'est le néant. jusqu'à ce qu'une plainte, des plaintes soient déposées, jusqu'à ce que l'affaire soit visibilisée.
Maître Bouillon peut peut-être préciser ce que contient cette plainte.
Il y a des personnes qui se sont fait passer à tabac, clairement. On ne parle pas de personnes qui se sont fait pousser ou qui auraient reçu une claque. C'est des membres cassés, des jours d'ITT qui vont à ce jour entre 10 et 30 jours. Donc, c'est des faits qui sont extrêmement graves, qui suscitent en général l'ouverture d'une instruction judiciaire. Parce que on a rarement le cas où un groupe d'hommes se permettent de commettre de telles violences sans qu'on approfondisse une enquête, car deux personnes seulement étaient identifiées, alors que de nombreuses personnes étaient présentes selon les victimes et portaient des tenues qui signifiaient leur participation à l'organisation de la soirée du 15 août.
Moi, si j'avais été le maire de Royères-de-Vassivière, déjà, j'aurais liquidé le comité des fêtes.
Véronique Decker, correspondante locale du journal La Montagne.
On ne peut pas avoir un président du comité des fêtes qui est bourré à la fin de la fête et qui va taper des gens. Je pense que j'aurais proposé au conseil municipal qu'il ne soit plus élu, parce qu'un élu doit représenter sa population, pas lui taper dessus. Donc il y avait des limites. Je pense que le maire de Royères n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Et que s'il avait agi, ça aurait calmé le jeu. Et les policiers qui ont quand même, la gendarmerie a été appelée par les jeunes, ils n'ont pas contrôlé les voitures qu'ils ont vues. Et s'ils avaient fait souffler dans le ballon les conducteurs des voitures, on aurait eu des chasseurs à pied. Donc c'est l'absence de sanctions à la hauteur de ce qui s'était passé qui a fait monter les enjeux.
C'est le sentiment d'un village un peu à l'américaine, où on peut être armé, on peut se défendre, on peut librement attaquer une personne en raison de sa couleur de peau et tout ça. On ne sait pas, concernant les auteurs, à savoir si c'était leur coup d'essai ou s'ils disposaient, s'ils étaient dans des groupes WhatsApp ou autres qui diffusaient des messages à caractère raciste. On n'en sait rien. Il y a deux figures qui ressortent, peu banales. C'est-à-dire, l'une d'entre elles est conseiller municipal. Et tous deux sont membres et présidents de l'ACCA, l'Association des chasseurs de Creuse. On voit bien que pour la gendarmerie de Royères, ils connaissent le prénom et les surnoms de chacun des protagonistes qui sont évoqués. C'est des personnes avec qui, très certainement, ils boivent le café, avec lesquelles leurs enfants vont à l'école. Là, on est au cœur du village pour gérer des histoires du village. Donc ça encore, c'est un choix de la part de la justice, c'est-à-dire qu'il aurait suffi de saisir une gendarmerie qui soit délocalisée, mais ne serait-ce que de quelques dizaines de kilomètres.
Pauline et Quentin, comment elle a raisonné, pour vous, cette nouvelle ? Un effet de sidération ?
Ben un peu, ouais, quand même, parce que parler de trac, d'entendre des mots comme nègre, chasse à l'homme, etc., ça fait quand même un drôle d'effet. On est quand même en 2025 en France. Je sais pas, je trouve que c'est choquant.
Moi, j'ai appris la nouvelle, pas la première info que j'ai eue, c'est pas l'info de ce qui s'est passé à Royères. C'est l'info de quand il y a eu une manifestation en soutien aux victimes et que certaines personnes étaient en train de faire des saluts nazis en face de cette manifestation.
Mais c'était sur la place du village.
Et c'était sur la place du village. Une journaliste a été agressée aussi ce jour-là.
Ce qui s'est passé ensuite, maître Colline Bouillon, quelques jours après, c'est un rassemblement, quelques 250 personnes qui se sont réunies. Et vous étiez là et vous étiez présente. Quelle était l'ambiance lors de cette réunion ?
Il y avait lors de cette réunion une vraie volonté de s'affranchir de toute récupération politique. C'est à ce titre qu'aucun représentant politique ou d'association de syndicats, d'ONG, n'a eu accès à la parole. Parce qu'en réalité, ce rassemblement, c'est un rassemblement populaire qui mélangeait toutes sortes de profils venus de différents endroits en Creuse et qui voulaient, au nom du vivre ensemble, témoigner de leur soutien à l'égard des victimes.
C'est lors de cette réunion, de cette manifestation, qu'on sent que le village commence à se diviser en deux. Comment vous analysez cette fracture ?
En réalité, je pense que les gens du village, de part et d'autre, ont le sentiment que cette histoire a permis une instrumentalisation et que leur village a été placé sous le feu des projecteurs à des fins autres que celles de défendre le vivre ensemble. Et c'est par peur de se retrouver au milieu de tout ça et de ne plus gérer la situation, je pense, que les victimes ont souhaité préserver leur parole. Et pendant ce rassemblement, il y avait également sur place des personnes qui contestaient le caractère raciste des faits, qui contestaient la réalité des violences qui se sont commises dans la nuit du 15 au 16 août 2025. Et j'en ai fait malheureusement les frais, car pendant mon intervention, deux personnes assurent avoir vu des saluts nazis commis légèrement en marge du rassemblement, ainsi que des menaces de mort et des injures sexistes à mon endroit lors de ma prise de parole.
Sur le plateau de Mille Vaches, Arnaud Chapal. Comment le Parisien de la Creuse, représentant les écologistes, comment on aurait envie de planter le décor ?
D'abord, c'est un pays qui est extrêmement attachant, avec des paysages magnifiques, naturels et tout ça. Et, c'est une terre rude. On dit beaucoup que quand il y a quelqu'un qui arrive en Creuse, il ne se fait pas accepter tout de suite. Il faut qu'il passe le premier hiver.
Ceux qui y viennent, ce dont on a besoin, c'est l'accueil. Et c'est aujourd'hui ce qui est peut-être mis à mal par cette histoire de Royère, de Vassivière.
Oui, l'histoire de Royère, en fait, elle nous a tous pris par surprise. On a été stupéfaits, on a vraiment été choqués. Quelque part, on a été un peu naïfs. Parce que le terrain, il a été labouré par le travail de l'extrême droite, en fait. Il y a un discours ici, mené par l'extrême droite locale, qui est extrêmement clivant. Pour certains, la parole se libère. Et puis au-delà de la parole, bah voilà, il y a des gens qui se sentent autorisés, qui se sentent protégés en allant attaquer quelqu'un qui est assis à une table juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que lui. Et c'est là où je dis qu'on a été naïfs, parce qu'on aurait dû comprendre que ça ouvrait les vannes à des sentiments. Alors, on est obligé de relier ça à une situation économique difficile. On est une terre d'élevage. Les fermes ici, elles ne sont pas bien grandes. Donc il y a une frustration chez les agriculteurs de ne plus pouvoir gagner leur vie comme le faisaient leurs parents, leurs grands-parents, en allant vendre les bêtes au foirail et tout ça. C'est un système qui marche beaucoup moins facilement. Et donc les agriculteurs, ils sentent qu'ils sont dans la fin d'un monde qui leur a été un petit peu imposé, puisque maintenant il faut acheter plus de matériel, il faut acheter plus de scie, il faut avoir une ferme plus grande pour démarrer et tout ça. Et il y a quelqu'un qui va vous dire « c'est de la faute de l'autre, là ». Alors l'autre... ça va être l'immigré, hein, bien sûr. Alors, les immigrés en Creuse, il faut un peu les chercher. Ah oui, mais c'est la faute des gens qui sont au RSA. Oh là là, les gens qui sont au RSA, les assistés, vous savez. En Creuse, il y a 2300 personnes qui touchent le RSA. Donc, cette agression de Royère, elle trouve sa source aussi dans un état d'esprit de gens qui ne comprennent plus très bien comment ça s'articule autour d'eux.
Quand on vient et qu'on débarque au milieu, même un mois et demi plus tard, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout le temps d'en parler. On a l'impression qu'il y a une volonté des habitants de Royère, de Vassivière, et même du plateau, de Mille Vaches, de se réapproprier leur récit.
Oui, et c'est leur histoire, c'est important. Parce que, je disais, la Creuse, c'est 114 000 habitants. Il y a 4 vaches pour un habitant ici. Donc on est entre soi. On n'a pas l'habitude de voir débarquer de Paris TF1, Libé, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend plus, on ne maîtrise plus le truc. C'était la fête du village. Les gens, ils étaient là, ils étaient à table, ils buvaient un coup, ils discutaient. C'était rien du tout. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup pour qu'il y ait toutes les presses nationales qui débarquent ? Il se passe qu'il y a des gens qui ont crié « Sale noir, on va te buter ». C'est pas ça qui se passe d'habitude ici. Donc moi, je comprends que la presse nationale soit venue. Mais je comprends aussi que ça nous fasse perdre l'échelle qui est celle avec laquelle on travaille d'habitude.
allez, on prend la route, il faut toujours prendre la route. Des fois, tu les comptes pas, j'imagine, Anne-Laure, les kilomètres.
Ça fait depuis le 2011 que je travaille à la radio.
Radio Pays de Guéret. Vous avez fait combien de temps sur cette affaire de Royer, de Vassivière?
Alors moi, j'en ai pas parlé, parce que j'étais pas là quand ça s'est produit. Et que quand je suis arrivée après, j'ai vu qu'il y avait une espèce de cafouillis autour de cette histoire qui a été repris par des médias nationaux, qui a été repris par aussi des partis politiques.
Il y en a qui jouent avec le feu.
Il y a des, comment dire, il y a des appétits politiques. On est en période électorale aussi, hein. Ça joue énormément. C'est-à-dire qu'il y a des appétits politiques d'un côté comme de l'autre, avec des récupérations. Et ça, c'est jamais bon, quoi.
En tout cas, là, il y a ébullition, peut-être une nouvelle dissolution. Et puis, on voit une figure qui n'est pas de la Creuse, qui est un député. Il n'y a plus qu'une circonscription en Creuse. Il n'y a plus qu'un député. Il a été élu à la faveur d'une triangulaire par 40% des Creusois. Quand je dis on joue avec le feu, peut-être, lui, il joue la carte de la division, de la haine.
C'est facile de jouer sur les peurs des gens. C'est facile d'appuyer sur les bons boutons en donnant des boucs émissaires. En fait, les agriculteurs FNSEA, vos problèmes, ils viennent de la Confédération paysanne. Les immigrés, c'est eux qui vont vous piquer vos allocations. Les maisons secondaires, mais ça, c'est la faute des Parisiens. Etc. En fait, c'est que ça, pour essayer d'attiser les haines d'un côté comme d'autre. Donc ça arrive aussi ici. Donc c'est une pente vraiment très, très glissante.
Je continue ma tournée de la Creuse. Ce département souvent associé à la diagonale du vide, où la question du dépeuplement est un sujet bien présent. J'ai rendez-vous à présent à une réunion informelle du collectif citoyen de la Souterraine, née dans ce véritable poumon de la ville qu'est la librairie indépendante L'Apothicaire, tenue par Quentin. Il fait partie de ces nouveaux arrivants, pollinisant culturellement le département, notamment avec la création du festival Les Diagonales. Ce soir était présent Christian, militant historique du NPA, pour réfléchir sur l'impact de ce qui est plus qu'un simple fait divers à leurs yeux.
C'est navrant parce que derrière, il y a d'autres choses. On est dans un département désertifié. Qui sait qu'il a besoin des autres pour vivre ? Dans un département où on a bataillé, par exemple, pour les services publics, l'argument de la baisse des services publics, c'est pas assez d'usagers, donc on ferme. Donc c'est ça le paradoxe. Mais dès qu'il y a des gens qui arrivent, il y a toujours ce côté un peu vous venez un peu chez nous, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, et c'est un peu ce qui s'est passé certainement là-bas, quoi. Il y a à la fois une problématique avec des néo-ruraux qui parfois peuvent arriver avec leurs grands sabots sans prendre en compte la réalité locale, mais il y a aussi des difficultés des locaux à recevoir des gens nouveaux et accepter la différence, quoi. Voilà. Et je pense que, y compris les pires du département, du député actuel, qui n'arrête pas de nous parler de repeupler. Alors lui, il veut le repeupler par la natalité, quoi. Et par la natalité des locaux, voilà. Donc tout le monde est pour résoudre le problème de désertification. Et en même temps, tout est fait pour séparer les gens, quoi. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, le gros danger, et en particulier de ce député, c'est le séparatisme. C'est-à-dire que... Il dit qu'il est contre, mais en vérité, c'est lui qui le pratique. Et il nous a divisé la Creuse. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait ne pas être d'accord, mais on vivait dans le même département, on était creusois, quoi. Là, maintenant, on sent qu'il y a deux Creuses qui sont en train de se constituer et qui sont prêts presque même à s'affronter. On a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues avant. Toi, des manifs, quand tu fais une manif, y a les gens qui t'ignorent éventuellement quand ils sont pas d'accord avec toi, mais jamais ils viennent te cracher dessus ou te menacer de te tirer dessus, parce que c'est ce qu'on a vécu, nous, dans certaines manifestations, dernièrement, quoi. Des gens qui sont à la terrasse d'un café, qui font comme s'ils avaient un fusil dans les mains et qui te tirent dessus, quoi. Des choses qu'on n'aurait jamais vécues il y a ne serait-ce que quelques années, quoi.
Étienne Lejeune, monsieur Albert, le maire PS de votre ville, la Souterraine, 5500 habitants. Comment vous l'avez vu arriver, ce fait divers ?
Très honnêtement, pas tant surpris que ça, parce que malheureusement, on voit bien que la Creuse est à l'image du pays. Et finalement, il y a cette espèce de repli sur soi, de peur de l'étranger qui mène à la... à la haine. Et ça fait mal parce que moi, l'image que j'ai de la Creuse et la Creuse que j'aime, c'est la Creuse résistante, c'est la Creuse qui a accueilli les réfugiés espagnols dans les années 30, c'est la Creuse qui a caché énormément de juifs, notamment d'enfants juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour moi, la Creuse et ma Creuse, c'est une terre où on sait accueillir, on sait résister et on sait faire passer l'humain avant tout. Donc c'était quand même une grande douleur de voir que ce genre d'acte pouvait arriver en Creuse.
Mais ce département était très traditionnellement à gauche. Quand il bascule aux législatives anticipées, à la surprise générale peut-être, pour Bartholomé Lenoir, dont la couleur est plutôt brune, diront certaines mauvaises langues.
Scrutin après scrutin, on voit une augmentation du vote RN. On le sentait d'autant plus venir que, entre les deux tours, malheureusement, la droite républicaine n'a pas joué le jeu du front républicain. Peut-être que là encore, les prémices de ce qui se passe aujourd'hui au niveau national et des déclarations qu'on peut voir. Mais il y a des communes où il y a des discussions, ne serait-ce que Guéret, hein, par exemple, qui n'est ni plus ni moins que la préfecture du département, où on sent bien qu'il est possible d'avoir une liste d'union des droites. Voilà, ça, c'est le rêve de notre député, l'union des droites. Donc, alors, l'union des droites, c'est pas... Pour moi, ce n'est pas la droite et l'extrême droite qui passent une alliance, c'est la droite qui dérive vers l'extrême droite, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est triste, et en fait, on voit que malheureusement, il y a une certaine libération de la parole, et il est devenu presque normal aujourd'hui d'avoir des propos qui soient racistes, qui soient ouvertement anti-immigration, etc., mais sans chercher à creuser plus que ça. Moi, j'essaye de démasquer les faux discours, les faux semblants, les mensonges, même si je dois avouer que malheureusement, quand j'explique aux gens que les difficultés qu'on peut avoir dans notre département ne sont pas dues, par exemple, aux immigrés qui sont arrivés, et en fait, tout de suite, je me heurte à un mur et tout de suite, je suis ultra minoritaire. Alors qu'il y a 40 ans, les discours racistes, homophobes, etc., ce serait pas tenu en public. Et immédiatement, il y aurait une réaction des gens autour en disant « Non, attends, tu racontes n'importe quoi, arrête, c'est faux, ou t'es un facho, tais-toi. » Et c'est là que je crois qu'on a vraiment perdu une bataille et laissé trop souvent, justement, l'extrême droite s'accaparer les thématiques républicaines. Un autre exemple qui est criant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle avec les gens, la laïcité, c'est une valeur d'extrême droite. C'est-à-dire que la laïcité, c'est pas de port dans les cantines ou pas de mosquée sur mon territoire. Mais c'est pas ça, la laïcité. Je crois aussi qu'il y a un sentiment de colère et de déprise de la population rurale, et notamment la plus éloignée des axes de circulation. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de se soigner. C'est une catastrophe, hein. La désertification médicale sur une partie du département, c'est absolument abominable. Et la difficulté aussi d'accéder à un logement ou autre. Et je pense que malheureusement, lorsqu'on est dans cette situation-là, on devient plus sensible à ce genre de discours avec des solutions faciles.
J'ouvre le numéro 89 d'un trimestriel, c'était celui de décembre 2024 qu'on connaît bien, en Creuse et particulièrement sur le plateau de Mille Vaches, qui est l'IPNS, Marcus Pereira. Vous mettez Trump en couverture.
Ouais, celui qu'on a appelé le mini-Trump, c'est notre nouveau député de la Creuse, Bartholomé Lenoir. Il est sorti de nulle part et s'est présenté aux législatives sous la bannière de l'Union des droites en défendant le nom de Jordan Bardella pour Premier ministre, et il a été élu au bénéfice d'une triangulaire.
Il a 34 ans à l'époque, là, 36 aujourd'hui. Qui il est? D'où il vient?
Alors Lenoir, il vient d'une grande famille bourgeoise de l'ouest de la France qui a fait toute sa scolarité dans des écoles privées extrêmement coûteuses. Et il a le projet de se lancer en politique et devient auditeur à l'IFP, l'Institut de formation politique, qui a contribué à former aujourd'hui toute une kyrielle de cadres de LR, du Rassemblement national, de Reconquête, également de mouvements associatifs d'extrême droite, des gens qui ont œuvré à la Manif pour tous, et évidemment des médias de la sphère Sterrain, Bolloré. Et donc Bartholomé Lenoir, il va se faire connaître en devenant directeur d'une de ces organisations, donc qui s'appelle Contribuables Associés, que les spectateurs de CNews connaissent bien, parce que ça fait partie des invités réguliers, cette association, qui en fait pousse les idées libertariennes, ultralibérales. Et dès ses premières semaines de mandat, il a écumé tous les anniversaires, il a visité tous les EHPAD, les clubs de foot, enfin voilà, essayé de faire une grande campagne de terrain, un territoire qu'il connaissait encore pas un an avant. Je ne sais pas jusqu'où il va faire illusion, mais en fait, ce qui nous a frappé, c'est que dès les premières semaines, il a manifesté une très grande agressivité et une façon de vouloir diviser les habitants, insister sur des fractures réelles ou imaginaires, et creuser des clivages. Et il y a une façon, encore une fois, la manière de Donald Trump, de désigner des ennemis. C'est les étrangers. Alors, les étrangers, on creuse quand même, on en voit très peu, on n'en voit pas beaucoup. Et puis, tout ce qu'il appelle l'ultra-gauche, qui est une espèce de catégorie très très vague, mais qui globalement rassemble tout ce que le territoire compte de militance.
La parole est à Monsieur Bartholomé Lenoir.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler d'un scandale qui touche le département de la Creuse. Le comité d'entreprise d'Enedis y possède un centre de vacances. Ce centre de vacances a été mis à disposition d'une association militante qui prône, je cite, « une société post-apocalyptique ». Une centaine de personnes a pris ces quartiers dans ce lieu à ne rien faire. Mais pire, cette zone constituerait une zone de repli lors de manifestations violentes comme à Sainte-Soline. C'est un scandale, car à quelques centaines de mètres de cette zone vivent des Français honnêtes qui ont toujours été fidèles à la France, même quand elle les a oubliés. Ils vivent aujourd'hui dans la peur d'être squattés à côté d'individus qui considèrent nos agriculteurs comme des nuisibles. Alors, monsieur le ministre, oserez-vous empêcher l'implantation d'une ZAD en Creuse et mettre fin à ce duo association d'extrême gauche, parti d'extrême gauche, qui menace mon département et nos campagnes? Merci.
Je vous remercie.
La Creuse, selon lui, est menacée de devenir une ZAD à l'échelle du département.
Il a harangué le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale en l'alertant sur l'existence d'une ZAD dans le village de Faux-la-Montagne. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une ZAD. Depuis plusieurs années maintenant, un ancien centre de vacances d'EDF est occupé par un groupe de jeunes personnes, avec l'aval d'EDF qui a signé avec ses occupants une convention d'occupation. Donc on n'est même pas dans quelque chose qu'on pourrait appeler un squat. Et Bartholomé Lenoir fait état de centaines de personnes qui seraient une base arrière pour semer le chaos en France. Bon, ils sont une dizaine à tout casser. Donc là encore, on est dans une fake news totale. Et donc quand effectivement à Royer, on voit des agressions racistes absolument désinhibées, moi, je pense que le contexte national donne une forme de légitimité à ces personnes pour laisser libre cours à leur agressivité et à leur pulsion raciste.
Ce que je vois en tout cas, c'est qu'immédiatement après, justement, le député s'est précipité au secours de ces pauvres villageois qu'on accusait à tort.
Étienne Lejeune, maire PS de La Souterraine.
Mais le rôle du parlementaire, le rôle du député, le rôle des élus, ça doit être de dire, écoutez, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, organiser des événements pour que les gens se rencontrent. Donc ça devrait être ça. Et au contraire, en fait, on a un député qui essaie de surfer dessus et qui remet à chaque fois deux balles dans le jukebox pour relancer le débat et puis essayer de fracturer un peu plus les gens et les choses sur ce territoire. Et c'est terrible. Et puis derrière, d'en profiter, c'est quand même assez extraordinaire, d'en profiter pour finalement rendre l'extrême-gauche, alors l'extrême-gauche, la gauche en fait et les humanistes, responsables de ce qui se serait passé presque. C'est-à-dire que quand on écoute le député et son discours par rapport à ce fait-là, c'est presque l'ultra-gauche qui est responsable de ça parce que finalement, elle refuse que le bon petit villageois français de Royer puisse vivre tranquillement dans son village.
C'est ce qui s'appelle la post-vérité.
Oui. On est là-dedans et ça, je dois avouer, alors je dois lui reconnaître une chose, c'est qu'il est très doué pour ça. Il est très doué. Malheureusement, ça prend.
c'est une libération de cette parole-là et de la part notamment de notre député actuel qui, dès le début de son mandat, a monté en fait, les creusois les uns contre les autres.
Quentin Liabo, de la librairie L'Apothicaire à La Souterraine.
Une mise en fait en concurrence de différentes façons d'être creusois. Je sais que Bartholomé Lenoir, notre député, aime beaucoup parler des creusois de souche face aux creusois gauchistes qui auraient envahi le territoire. Et pour l'instant, moi, ma réflexion, elle est à l'état purement théorique, avec peut-être la tentative d'une mise en pratique, j'en sais rien, mais il faut absolument que la peur change de camp, en fait. On ne peut pas, en fait, être à la remorque de ce que véhiculent ces gens haineux et violents, mais vraiment, vous voyez, vraiment violents dans leurs actes, dans leurs mots. Et il s'agit, à mon sens, de changer un peu la chose et leur faire peur. C'est pas forcément leur faire peur par la violence physique, c'est pas l'objectif. En revanche, c'est être sûr de nos positions, sûr de notre humanisme, sûr de notre tolérance vis-à-vis de tous et toutes. Voilà, je pense qu'il y a toujours des possibilités en fait, de solutionner ça. Je suis pas dans le monde des bisounours, c'est pas l'idée, c'est pas ça. Je pense que, surtout, il faut qu'on clame haut et fort ce qu'on pense et comment on veut vivre et pas se laisser impressionner par ces gens-là.
Olivier Cagnon, on dit monsieur le maire, depuis peu.
Oui, donc je suis maire de Felletin depuis un an.
Dans les nouveaux arrivants, vous, ça fait combien de temps ?
Et ça fait 17 ans aujourd'hui que je suis en Creuse.
Donc, d'une certaine manière, très cher Olivier, vous avez fait partie de ceux qui ont repeuplé.
Oui, je fais partie peut-être de ceux qui ont participé à repeupler, mais humblement, hein, on est arrivé dans un endroit qui était déjà habité, où il y a déjà des choses qui se passaient. En fait, non, c'était une ville vivante, c'est aussi pour ça que je m'y suis installé. Il y avait un marché, des associations dynamiques depuis plusieurs décennies. Donc c'est pas les nouveaux arrivants qui font vivre un pays qui était mort. Le pays n'a jamais cessé de vivre, simplement il s'était en partie dépeuplé. Et je pense que c'est important de le comprendre.
Pour comprendre ce qui s'est passé ou ce que signifieraient peut-être des choses qu'on peut lire dans l'histoire de Royer de Vassivière, dont peu de gens me parlent au micro finalement, puisque ça appartient peut-être aux habitants ce qui s'est passé, même si ça a fait venir beaucoup de monde.
Je ne vais pas m'exprimer sur ce qui s'est passé à Royer, mais en tout cas, ça me semble toucher ou entretenir quelque chose qui est de l'ordre du clivage, d'un clivage qui est réel, hein, mais c'est là où il faut prendre des pincettes et beaucoup de nuances, entre gens d'ici, gens pas d'ici, entre gens de droite, gens de gauche, entre écolo et pas écolo, voilà. Et c'est ça qu'il faut à la fois essayer de comprendre et puis soigner. Parler à son voisin, parler à celui qui est dans le café, et ça, honnêtement, les gens le font aussi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un clivage qui apparaît ou qui revient fortement quand il y a des faits divers comme celui-là. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres par le passé. Mais aussi, au quotidien, il y a des gens qui font du lien de manière invisible et aussi des choses qui se normalisent.
Allons plus loin dans cette affaire, puisqu'il serait tentant aussi de voir que, avec votre député qui attise cette haine, c'est qui ne facilite pas, on pourrait le dire, le vivre ensemble.
Évidemment, ça, on a un député qui est particulièrement idéologue, c'est-à-dire que il a ses obsessions, les immigrés, les ZAD, mais en tout cas, il ne faut pas donner aux députés plus d'importance qu'il n'en a, et en même temps, il faut aussi réagir quand il y a des contre-vérités aussi énormes qui sont énoncées, et on est dans une bataille du récit, on est dans une bataille médiatique, et il faut qu'on prenne notre part. Nous, en tant qu'élus locaux, on ne peut pas laisser passer tout et n'importe quoi.
Alors comment, ce récit, on se le réapproprie ?
Eh bien, qu'il soit le nôtre, moi je pense que c'est important que le nôtre il soit incluant. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la culture rurale qui se sent méprisée, délaissée. Et ça, il faut absolument l'entendre. On sait que c'est un des moteurs du vote Rassemblement National, du vote extrême droite. Et on le voit dans ces événements-là, comme à Royer, où on sent que ça fédère une réaction de solidarité entre les chasseurs, les agriculteurs. Ceux qui font de la moto, voilà, des gens qui se sentent jugés négativement dans leur mode de vie. Et là, il y a quelque chose à soigner et à traiter à cet endroit-là. Et les nouveaux arrivants ne sont pas exemples de défauts. Des gens qui arrivent aussi de façon très maladroite, un petit peu en terrain conquis, ou avec l'image qu'en fait, il n'y a rien avant eux. Oui. Voilà, il faut aussi faire une autocritique de ce côté-là. Et il ne faut pas oublier aussi que dans l'histoire, les cultures paysannes ont été balayées avec une grande violence, que les zones rurales ont toujours été un petit peu les parents pauvres, dans le sens méprisé. Et je pense que ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est aussi un ras-le-bol, un sentiment d'être relégué, d'être dominé aussi. Et ça se voit dans les façons d'agir. On va avoir des revendications politiques de la part de nouveaux arrivants qui vont s'exprimer avec des tags, avec l'occupation de domaines publics, des choses qui ne sont pas du tout dans la culture locale et qui sont au contraire très mal vécues, très mal perçues. C'est là où je dis qu'il y a aussi des indélicatesses et des erreurs qui sont commises. Et après, c'est plus difficile aussi de se parler, d'être en interaction.
Ce que j'ai vu aussi, c'est lors de la première réunion qui a eu lieu à Royères, 2 jours après.
Véronique Decker, correspondante locale du journal La Montagne.
2 jours après, il y a un monsieur qui est venu pour porter la parole des agresseurs en disant, voilà, je viens, parce qu'il y a 2 versions des faits, il y a la vôtre et puis il y a la leur. Et je trouvais vraiment bien que quelqu'un vienne pour tenter une médiation, d'autant qu'il semblait extrêmement sincère, cette personne. Et quand il a vu le jeune homme, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu faisais dehors à 4 heures du matin ?» Alors, il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit d'un jeune homme, adulte, majeur, responsable, fait ce qu'il veut à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui était dit ? Ce qui était dit, c'est comment t'as pas imaginé que tu pouvais être en danger à 4 heures du matin, le soir d'une fête. Donc, évidemment, la salle a réagi. Et là, j'ai vu à quel point on est dans une pensée coloniale, non dite. Donc, cet imaginaire qui a bougé en ville en raison de l'intégration de ces populations issues de l'immigration, elle a beaucoup moins bougé dans la campagne. Le jeune homme de Royères de Vassivière est un des seuls noirs. Non, il y en a 2. Il y en a un qui est cuisinier à l'atelier. Mais c'est une population qui n'est pas confrontée du tout ni à l'immigration. Et par ailleurs, ce jeune n'est pas un migrant. C'est un Français élevé en France, qu'il dispose ou non de la nationalité, on est toujours du pays où on a passé son enfance. Hein. Et je comprends que ça percute les gens qui ont été élevés dans cet imaginaire colonial. Mais il faut que le monde bouge. Et je ne suis pas sûre qu'on le fera bouger uniquement à coup de procès.
Ces gens-là sont violents.
Paco Valta, libraire, à Mania l'étrange.
Ces gens-là propagent de la haine, mais il y a du répondant en face. Il y a des gens qui s'organisent de plein de manières, que ce soit de manière frontale, en allant arrêter un rassemblement, par exemple, comme il y a pu avoir avec l'avenue du collectif Némésis il y a quelques mois, ou en faisant de la pédagogie, en montant des lieux culturels, en faisant du lien social dans les villages, etc. En tout cas, il y a une vraie réponse, il y a une vraie volonté, et je pense que cette volonté, elle est vraiment majoritaire, bien au-delà de la pensée d'extrême droite, qui est souvent très visibilisée.
C'est vrai que c'est ça, certainement, ce tissu associatif qui, à nous, qui a dû aussi... Enfin, ça fait partie du package pour cette nouvelle vie.
Oui, complètement. Moi, j'ai été travailleur social pendant 10 ans. J'ai travaillé avec des gens qui venaient du monde entier, parce qu'on les accueille. Et du coup, arriver ici, faire ce métier-là en milieu rural, je me suis confrontée au racisme des voisins, des familles que j'ai pu accueillir, notamment d'origine syrienne, afghane. Donc le racisme, il existe, il est présent. Ce que je pense avant tout, c'est que c'est un problème de méconnaissance, de manque de lien. Et on est dans un territoire où la diversité, elle n'est pas très importante. Et donc, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. connaît pas, on a peur de la différence, on a peur parce qu'on voit des choses à la télé, dans les médias mainstream, etc. Et c'est en créant du lien, c'est en amenant de la culture, en permettant par le tissu associatif, justement, qu'on peut petit à petit faire bouger les lignes. Pour moi, ça passe par la pédagogie, par tout un tas de choses beaucoup plus sympathiques que juste de se dire que lui, il est raciste et moi, pas.
Aujourd'hui, à Felletin, il y a quand même une dynamique qui est positive. Felletin se repeuple. Et je pense que ça se fait parce qu'il y a un tissu associatif qui est riche, parce qu'on essaye de faire du lien. Alors, quand je dis « on », c'est aussi bien les associations, les acteurs économiques, les élus, dont je fais partie. Hein. On doit prendre notre part, même si ce n'est pas nous qui allons à nous seuls résoudre les questions de vivre ensemble. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de politique ou qu'il faut abolir les clivages politiques, hein, pas du tout, mais c'est important d'avoir des choses autour desquelles aussi on se retrouve.
Il y a une expression en langue doc qui est assez jolie.
C'est « Shabbat d'entra ». Ça veut dire « finissez d'entrer », donc c'est une expression qui est utilisée en Limousin, et c'est comme ça qu'on intitule à Felletin la soirée d'accueil des nouveaux arrivants qui a eu lieu là, ce vendredi. « Finissez d'entrer », donc ne restez pas sur le seuil, rentrez dans la maison, et cette soirée qu'on fait tous les ans, elle est importante parce que les nouveaux arrivants viennent, mais aussi les associations, des anciens qui sont là aussi, et c'est des moments, ça fait pas tout, mais c'est quand même des moments importants où les gens peuvent se rencontrer et s'apprivoiser un petit peu, et je pense qu'on peut avoir tendance à manquer d'espace et de lieux comme ça. C'est pour ça qu'il faut les faire exister.
Mais c'est bien ici qu'on est, le BAM, c'est ça ?
Complètement.
En fait, on est un bar associatif, donc du coup, en fonction des activités, on ouvre ou pas le bar.
Sébastien, du BAM, le bar associatif de manière étrange.
On n'est que des bénévoles, il n'y a pas de salariés. C'est un moyen de rencontre, parce que sur la commune, on n'avait plus rien, en fait. On n'avait plus de bar, on n'avait plus... tu vois ? Donc du coup, il y avait une vraie demande. Au niveau de nous, dans notre groupe d'amis... Et puis, vu la réussite, tu vois, par rapport au intergénérationnel, les anciens, pareil, le dimanche matin, on ouvre, ils sont là à 10h moins 5, 5 minutes avant l'ouverture, et si on n'est pas ouvert, ils font la gueule. Et ça, c'est chouette. Donc, en fait, il y a plein de choses qui marchent, en fait. Et ça, c'est de la politique, moi, ce que j'appelle de la vraie politique. On reprend la main, on devient moteur, et avec des valeurs qui sont des valeurs d'ouverture, de partage. On peut partager les compétences, les connaissances... Et les plus anciens ont plein de choses à nous apprendre. Donc du coup, nous, on surfe là-dessus. Et ça peut-être éviter ce qui se passe à Roy.
C'est qui vient de passer, là ?
Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Tout le monde dit bonjour à tout le monde.
Ça, c'est normal.
Allez, on rentre.
C'est le verbe de dire bonjour à tout le monde. Enfin, on se connaît tous.
Il y a personne encore dans le bar à cette heure-là.
Non, le bar est fermé.
Et le bar est fermé, oui.
C'est Atelier Tricot.
Atelier Tricot.
Tout le monde au tricot.
Non, tricot, couture ou crochet, enfin, ouais, mais il y a de tout, de tous les âges et tous les genres.
Vous êtes sur quoi, là ?
On est deux à faire des rideaux, deux à faire des ourlets. Il y a Muriel qui apprend le crochet.
On n'a pas été présenté.
Ah oui, alors du coup, moi, je m'appelle Marie et je fais partie du groupe qui était à la base de la création du bar associatif de Mania, le BAM. Et voilà, j'habite ici, je suis graphiste en télétravail et je rénove ma maison et j'élève ma fille avec mon conjoint. Et en plus, on fait le bar. Voilà.
Ce qui est génial, c'est qu'il y en a encore ici qui font des petits.
Des enfants ? Ah bah, on a un paquet à faire des enfants, ouais. Ah oui, là, on va repeupler la Creuse, là. Ah oui, non, ça n'arrête pas. Moi, ma fille, elle a 2 ans et demi, ça a été l'ouverture du bal, et puis depuis, ça tourne, donc on fait tourner les vêtements. C'est tout un, ouais, une danse de sacs de vêtements pour enfants qui tourne. Il y a une salle enfant aussi, je ne sais pas si vous avez pu visiter. Non, mais il se passe plein de choses et on est hyper heureux et on a été très bien accueillis par les locaux. les gens qui sont là depuis longtemps, qui nous ont, même encore cet après-midi, j'avais l'agricultrice, ma voisine, qui venait nous aider à monter nos palettes de pierre, 2 tonnes de pierre pour rénover le sol de la maison. Il faut les monter jusqu'à la maison, un coup de fil, ils viennent, les agriculteurs avec leurs tracteurs, ils nous aident. Enfin, franchement, c'est super, quoi. Il y a beaucoup d'entraide en Creuse, donc on est accueillis, quoi.
Si on plante le décor, c'est même pas une corvée, ça, Jean-Yves Le Sage, de décortiquer les noix du noyer du jardin.
Si, c'est très pénible. Et après, t'as les doigts noirs pendant une bonne semaine avec le brou, ça colle bien.
Si on plante le décor ici, pour un vieux militant comme toi, à constituer ce collectif antifasciste du département, Antifa 23...
J'en suis un des animateurs.
Mais avec quand même ce passé de militant.
Oui, je milite pour la Révolution mondiale depuis mes 14 ans. J'étais en Seine-Saint-Denis et les gens les plus à droite, c'était le PC. C'est assez simple, en fait, d'être pour la Révolution.
Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves ici, Jean-Yves ?
La faute de ma femme, elle ne voulait pas rester à Bobigny pour la retraite. Mais je ne regrette pas le choix.
Ici, Jean-Yves, Le Sage, tu ne vas pas me dire non plus qu'elle est si facile, cette vie.
Alors, elle est beaucoup plus facile parce que les gens n'ont pas la vie aussi stressante que celle qu'ils connaissent en Île-de-France. Moi, les premiers trucs qui m'ont surpris ici, c'est... la gentillesse des gens, d'ouvrir la porte, de laisser les portes ouvertes, y compris. Enfin, non, c'est vraiment pas la même vie, oui.
Quand il y a une sorte de chasse à l'homme à l'homme noir qui plus est dans le village à 14 km à Royères cet été, là, on n'est plus sur des conduites non agressives.
Alors, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de contradiction non plus. On est sur le glissement vers l'extrême droite, vers les idées racistes, qui prend une forme odieuse. Et ça a fracturé le village complètement, avec les familles historiques qui se sentent bousculées, qui sont d'ailleurs objectivement bousculées par les modes de vie culturels, la façon d'habiter, la façon de travailler. Évidemment, pour les vieilles familles historiques de paysans, j'entends bien où ça peut choquer, où ça peut froisser. Et sur un fond global de droitisation de la société, d'augmentation du racisme, de montée des idées portées par le RN, bah évidemment, c'est un terreau favorable.
Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut laisser ne pas dire ? Qu'est-ce qu'il faut penser aussi de ce silence à Royères des habitants, des premiers concernés de ce village divisé en deux, selon vous, Marcus ?
Moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire ou penser à leur place. Je pense que c'est important de rétablir le dialogue. Moi, au-delà de l'agression raciste, j'ai été quand même frappé par le degré de tolérance à une certaine forme de violence qui, quelque part, ferait partie du folklore. Voilà, comme si, bah, finalement, on s'est toujours tapé sur la gueule à Royères de Vassivière, après les balles, après les fêtes, et ça fait partie de la culture locale. Bon, moi, je suis assez choqué qu'on puisse s'accoutumer à ces formes de violence. Et plus encore dans le cadre quand cette violence s'exerce dans une forme raciste. Mais je pense que cette accoutumance à des formes de violence physique et verbale, elle peut se résoudre, en tout cas au niveau local, que par le dialogue. À partir du moment où on a des personnes physiques face à soi, on dépasse le fantasme, on dépasse ces espèces de figures imaginaires ces élites politiques d'extrême droite essaient de nous vendre en surfant sur une espèce d'angoisse existentielle qui est très liée à un contexte global, économique, politique dont ils font leur miel aujourd'hui.
Ce dimanche, à Faux-la-Montagne, les militants cégétistes qui m'hébergeaient m'avaient conseillé d'aller à la sortie de la messe rencontrer celui qui y officiait de toute éternité, ou presque.
Voilà notre artiste. Alors, qu'est-ce que tu fais de bon, alors? Tu interviews pour qui?
Gilles Gratzine, comment on vous appelle dans le village à Faux-la-Montagne?
Quelquefois père pour quelques-uns, mais la plupart du temps, c'est pour mon prénom.
Je vais vous parler d'une chose qui ne va pas vous amuser.
N'est-ce pas?
Le 15 août dernier, il s'est passé cet acte absolument condamnable d'une chasse que l'on dit à l'homme noir.
Oui, bien sûr, mais on a une montée aujourd'hui d'une espèce de nationalisme étrange. Il faut rester vigilant sur notre territoire, rester vigilant, parce qu'il s'agit de vivre ensemble et d'avoir une mixité sociale qui soit respectueuse. Enfin, quand même, c'est pas possible qu'il nous arrive des choses de ce genre-là. Oui, monsieur, on va faire ça. Bon, mais merci.
Sur l'extrême droite a des modes d'action dans la peur, etc. Mais moi, pour le coup, vu que je me retrouve mêlé à cette histoire judiciaire maintenant pour une bonne partie de ma vie, et du coup, je pense que, enfin, en tout cas, j'aimerais que, à terme, le procès ne devienne pas celui de les gauchistes contre l'extrême droite, parce que pour le coup, là, c'est pas le cas. Moi, je suis pas arrivé là-bas en tant que gauchiste. Je suis pas arrivé avec des idées politiques. Je suis pas. Enfin voilà, j'étais juste en train de faire la fête avec mes potes et que on relate des faits, que les personnes soient jugées pour les faits qu'ils ont commis. Je pense pas avoir l'énergie non plus de lutter contre l'extrême droite. Dans un village comme Royères-de-Vassivière, c'est difficile. Il y a pas beaucoup de logements, il y a pas beaucoup de travail non plus.
Maître Colline Bouillon. Il faut peut-être comprendre aussi que la figure principale de cette affaire, que nos confrères des médias ont appelé Maxime, en dissimulant sa voix lors de son témoignage, Maxime vit sur place. La question est peut-être pour lui de pouvoir rester et de considérer qu'il n'a pas à partir et à quitter ce territoire.
Alors très honnêtement, je ne sais pas quel va être le choix des différentes victimes à l'issue de cette procédure. Je pense que certaines d'entre elles se posent la question du maintien sur les lieux. Mais il y a à la fois des gens qui se sont parfaitement intégrés à la dynamique locale, telle que c'est le cas de Maxime, une volonté de s'installer, de participer à la vie locale. Et il y en a qui sont tout simplement des enfants du village, qui connaissent les agresseurs, qui connaissent depuis tout petit... qui connaissent les personnes qui aujourd'hui leur tournent le dos, qui les insultent, qui les menacent. Et je pense que c'est un fardeau bien trop lourd à porter.
C'est comme s'il y avait aussi deux affaires, non pas un rebondissement, maître Colline Bouillon, mais le fait que vous ayez été, vous, victime, à votre tour, de cette campagne attisant la haine avec des menaces, et donc de porter plainte, plusieurs plaintes, avec une vie qui est à son tour bousculée, la vôtre.
Effectivement, dès le lendemain, mes informations personnelles ont été divulguées sur un site qui est hébergé en Russie. Il y a eu des commentaires qui appelaient au viol. J'ai reçu à mon domicile une lettre de menace. Ça a été un choc. Et après, j'ai décidé que finalement, j'allais pas m'arrêter à chaque fois. Maintenant, dès que Valeurs Actuelles, Français de souche ou je ne sais quel internaute m'insulte ou raconte tout et n'importe quoi, j'en prends acte avec recul et parfois amusement ou fatigue, selon les jours. Et j'ai été vraiment soulagée que dès le début, l'ALDH, la personne de Maître Daoud notamment, se soit mobilisée parce que, effectivement, c'est très violent.
Oui, en fait, j'ai été saisi par une consoeur, Colline Bouillon, qui s'est retrouvée mise en cause de façon très grave par des réseaux d'extrême droite et de la droite identitaire pour juste avoir fait son boulot d'avocate.
Emmanuel Daoud, avocat de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, défenseur de maître Colin Bouillon.
Et il est très important de comprendre que si les avocats ne sont pas protégés dans l'exercice de leur mission de défense, c'est bien les fondamentaux de notre démocratie qui sont en cause. D'ailleurs, il y a une résolution du Conseil de l'Europe de 2021 qui l'a rappelé et qui dit la chose de façon très nette. L'avocat doit pouvoir exercer son travail sans pression, sans harcèlement, sans ingérence. On peut débattre avec un avocat, une avocate sur les moyens de son argumentation, mais on ne peut pas l'attaquer personnellement. Et c'est ce qui s'est passé s'agissant de ma consoeur avec une virulence très très importante.
Ces menaces n'ont jamais cessé.
Ces menaces n'ont jamais cessé, comme trop souvent. Ceux qui menacent se cachent derrière le pseudonymat ou l'anonymat, puisque ces braves gens sont d'un grand courage. Ils jettent en pâture un nom, et parfois aussi sur des appels au viol. Ces sites identitaires de l'extrême droite la plus violente cherchent à mener sur le terrain viral une guerre de civilisation et une guerre de religion. C'est gravissime. Et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je ne veux pas être un Cassandre, mais ne pas réagir vigoureusement, fermement, face à ces attaques, c'est la porte ouverte, d'une certaine façon, à une trumpisation de notre vie sociétale. Le simple fait de défendre ces personnes qui ont fait l'objet d'une véritable chasse à cour dans ce village, ça met en danger l'avocat ou l'avocate concernée. Et on ne peut pas admettre cela, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, avec une montée des extrêmes. Et l'on voit qu'au fur et à mesure, les bornes sont franchies.
La nuit du 15 août, de Royère de Vassivière. Fin, ou presque, du 19e épisode. Presque, car au moment où nous mettons en ligne cet épisode, ce 5 novembre 2025, la procureure de Guéret a annoncé que la circonstance aggravante de racisme ne serait pas retenue dans l'affaire de Royère de Vassivière. L'affaire se poursuit donc, pour violence en réunion, sans circonstance aggravante, avec des peines encourues moins élevées. Ici, à Royère, cette décision a eu un effet immédiat. Elle n'a pas refermé la blessure, elle l'a rendue plus visible. Pour certains, elle clarifie. Pour d'autres, elle efface. Cette décision interroge, elle montre la difficulté persistante à reconnaître la dimension raciste de certaines violences lorsqu'elles se produisent au village, entre voisins, entre gens du pays. Cela réduit aussi ce que l'on reconnaît publiquement. On est fier, à pagaille, d'avoir sondé les silences de Royère, donc aujourd'hui, ceux de la justice. Nous reviendrons dans ce village qui ne parle plus, là où le récit s'est brisé. Pagaille tient à remercier pour son concours logistique Quentin Liabeau, de la librairie L'Apothicaire à La Souterraine, et son épouse Pauline, fondatrice du festival Les Diagonales de La Souterraine. Salutations à Patrice Pujol et Isabelle Fauchard de la compagnie Nous nous sommes tant aimés, désormais basée à Bénévent-l'Abbaye, dans le petit hameau de Lura. À lire de Marie-France Houdard, Comprendre le pays limousin et y vivre, aux éditions Maillade. Merci au magazine IPNS qui appartient à ce fondamental réseau de la PPP, la presse pas pareille. Pagaille est un podcast d'Alexandre Hérault, monté, malaxé, épicé et mixé par Vincent Deck, son réalisateur aux Petits Oignons. Une collection présente sur toutes les plateformes de podcast, produite et diffusée par Blast, que vous pouvez bien sûr soutenir en vous abonnant.
Une création.
Blast.